Bien, chers amis, bienvenue pour cette reprise de notre étude biblique du mardi après-midi. Alors, tout d'abord, les modalités pratiques. Je suis un peu désolé que nous soyons dans cette configuration salle mono, parce que forcément, c'est moins pratique pour l'interactivité entre nous tous. Ça fait un peu le grand maître qui parle et les disciples qui écoutent. C'est déjà tellement ça habituellement que je redoute cruellement la situation. Oui, mais ça ne peut être qu'un encouragement supplémentaire, c'est fâcheux. Donc, je ne sais pas, peut-être que la fois prochaine, on envisagera une autre disposition pour qu'on soit un peu plus rapprochés les uns des autres. Vous avez ici sur la table le calendrier des rencontres. Donc, vous avez toutes les dates. Je crois qu'il y a une date qui a changé par rapport à ce que nous avions envisagé l'an dernier au mois de juin. Donc, c'est ce document qui fait foi. Donc, ça, c'est pour la partie formelle. Maintenant, la question de notre parcours pour l'année. Donc, Dieu à l'épreuve de ses images. Cela essaie de reprendre ce qui avait été le thème un peu consensuel lorsque nous nous étions interrogés l'an dernier sur notre programme pour les mois à venir. J'ai essayé de prendre en fait les stéréotypes qui sont les plus fréquemment employés de façon à les interroger au regard de textes bibliques. Alors, comme vous avez été quelques-uns à me le faire remarquer, c'est une étude biblique où il n'est pas fait mention des textes bibliques qui vont être convoqués. Vous avez l'air désemparé, en plein désarroi. Mais c'est parce qu'en fait, il est question de parcourir tous les textes bibliques. Non, voilà les deux raisons qui m'ont conduit à ne pas mettre de textes bibliques de référence à chaque fois. La première chose, c'est que nous allons devoir utiliser plusieurs textes bibliques à chaque fois. Aujourd'hui, je crois que j'en ai convoqué une huitaine. Alors, c'était peut-être pour éviter de vous décourager. On aurait pu prendre un ou deux textes bibliques pour chaque séance. Il me semble que cela aurait été une mauvaise méthode, parce que l'expérience montre que quand il s'agit de parler de Dieu, de faire de la théologie à partir des textes bibliques, il faut nécessairement convoquer plusieurs textes à la fois. Sinon, on n'a pas un portrait en relief. Sinon, on est enfermé dans une image, on est enfermé dans un point de vue. Et finalement, il n'y a pas d'autre possibilité que d'avoir une approche dialectique. L'autre raison pour laquelle je n'ai pas mentionné de texte biblique, c'est pour que vous n'ayez pas, vous allez me dire, c'est un peu perverse mon affaire, vous n'ayez pas l'occasion de préparer les textes bibliques à l'avance, de façon à réagir, à faire réagir, sans avoir eu le temps de les digérer, les textes bibliques par rapport aux stéréotypes. Je veux dire que ça nous évite, enfin en l'occurrence ça vous évite, d'avoir une sorte d'interprétation subtile qui permettrait quand même de faire dire au texte des choses qu'il ne dit pas. Mais par exemple, je prends l'exemple Dieu Tout-Puissant. On peut toujours s'arranger pour nuancer ce qu'un texte va dire. Et j'aimerais que nous soyons plutôt dans un rapport brutal au texte biblique, anguleux, et que nous ayons l'occasion de nous coltiner vraiment des textes bibliques sans avoir eu le temps au préalable d'avoir soit poli nos stéréotypes, soit finassé avec le texte biblique. Voilà, j'aimerais que nous ayons un rapport plus combatif, un peu comme Jacob près du Yabok. On combat avec Dieu, pas contre, mais avec. L'autre chose, c'est que je me dis que c'est l'occasion aussi pour vous de venir avec des textes qui correspondent au thème. C'est-à-dire que, je ne sais pas, vous voyez, la prochaine fois, c'est la séance Dieu créateur. Alors évidemment, Dieu créateur, on pense tout de suite à Genèse 1 et Genèse 2. Donc, ils seront sur la liste. Mais ce peut être intéressant aussi que vous convoquiez à cette occasion-là un texte qui vous parle de Dieu et de son rapport à l'acte créateur et qui ne serait pas forcément un texte auquel j'aurais pensé. Et donc, voilà, on a aussi la liberté de se dire, là, dans cette thématique, ce texte dit quelque chose. Peut-être d'ailleurs quelque chose qui sera contradictoire ou nuancé par rapport à ce que les textes bibliques que moi j'aurais choisis vous apporteront. Donc l'idée, c'est un enrichissement. Voilà. Donc faites peut-être passer quelques feuilles de textes bibliques. C'est une première série. Et puis le calendrier aussi, de façon à ce que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. Non, ça c'est une autre série. Ce sont deux autres textes bibliques. Bien. Première question préliminaire. Par rapport à cette liste d'images, de stéréotypes, y en a-t-il qui vous semblent inutiles et y en a-t-il qui vous semblent manquer, de façon à ce que nous puissions éventuellement modifier cette liste tant qu'il est temps? C'est une question que vous pouvez avoir en tête et puis vous pouvez me répondre à la fin de la séance. S'il vous semble qu'il y a des thèmes qui manquent, on peut les rajouter. D'autant plus qu'il y en a qui vous semblent inutiles ou secondaires, accessoires. Parents, le Dieu Père. Et mère. Voilà, j'ai essayé de trouver une formulation. Parents, ça me semblait prendre à la fois père et mère pour ne vexer personne, parce que il est quand même question souvent du Dieu Père, et je sais que la gente féminine est assez revendicatrice à cet égard. Dieu protecteur ? Non, ça ne veut pas dire protecteur. Ça veut dire plus que cela. Non, parce que protecteur est dans parent, mais un parent, ce n'est pas simplement un protecteur. Voilà. La protection, ça sera dans la parentalité. C'est une des trois fonctions de la parentalité, me semble-t-il. Avec pourvoir et permettre. Comme ça, vous avez déjà la triade. Voilà. Oh ben non, c'est pas tout puissant entre tout savoir et tout faire. Voilà. On peut tout savoir sans tout pouvoir, on peut pouvoir tout faire sans tout savoir, donc ce sont quand même deux catégories différentes. Mais souvent, en fait, on considère que Dieu est à la fois omniscient et à la fois omnipotent, pour reprendre la même phraséologie. Et donc, la question sera de savoir si elles sont bibliques. Alors, effectivement, on me suggère éternel. En fait, c'est quelque chose qui pourrait s'intégrer dans notre parcours. Je ne l'ai pas tout à fait utilisé parce que éternel, c'est plutôt le nom propre que l'on attribue à Dieu. Vous voyez, c'est une façon de traduire le tétragramme plutôt que quelque chose qu'on lui attribuerait en termes de qualité dans les stéréotypes classiques. Mais effectivement, vous avez raison, on dit souvent Dieu est éternel. Alors peut-être qu'on pourra l'intégrer dans la question de la nature à ce moment-là. Ça serait une sorte nature-histoire, vous voyez. Peut-être qu'on pourrait à ce moment-là faire un couple, je le note. Non, ça serait au sens, est-ce que Dieu ne serait pas dans la nature? Vous voyez, une sorte de panthéisme, une sorte de théologie naturelle. Ouais, non pas sur l'être de Dieu, mais Dieu dans la nature. Dieu qui se manifeste dans la nature. La nature qui est divine, peut-être. Vous voyez, entre panthéisme et pananthéisme. Ouais. Dieu vengeur. Alors ça, c'est dans législateur qu'on va pouvoir l'utiliser. Mais effectivement, c'est bien de préciser quels sont les sous-chapitres qu'on aimerait... voilà. Alors, violent, ça sera aussi avec vengeur, législateur, parce que précisément, l'idée que Dieu soit législateur, c'est une façon de canaliser la violence. Mais je le note avec vengeance. Alors, l'idée que Dieu est impassible, cela signifie qu'il ne souffre pas des situations humaines. C'est-à-dire que ce que nous endurons, ce que nous éprouvons, n'affecte pas Dieu. Hein? Dieu est impassible, ça veut dire qu'il est suffisamment distant pour ne pas être modifié par la vie humaine. Pour vous le dire vite, c'est quelque chose qui est remis en question aussi bien par le théologien Jürgen Moltmann que par la théologie du process, qui développe au contraire des interactions à n'en plus finir entre Dieu et l'humanité. Alors que la théologie médiévale est plutôt à dire Dieu est impassible, au sens où il est un créateur qui a fait sa création, et les créatures n'ont pas le pouvoir de l'influencer ou même de le toucher en quelque sorte.
Ça va tout, ça va.
Jaloux.
Ça va complètement.
Dieu jaloux.
De la passion, là, passion.
Jaloux, jaloux. On va le mettre avec amour. Jaloux, amour. On va voir comment se manifeste cet amour divin.
Pour moi, il y a une contradiction entre impassible et le récit de la passion.
Eh bien, on verra ça. N'empêche que impassible, c'est une des caractéristiques attribuées à Dieu. À partir de ce moment-là, c'est une image d'Épinal qui mérite d'être interrogée. Et on verra quels sont ceux qui sont les tenants de l'impassibilité, et quels sont ceux qui sont les tenants de la passibilité, en quelque sorte. C'est pas parce que Jésus souffre sur la croix que Dieu souffre pour certains. Bien. Je vous propose qu'on commence notre première séance sur voir Dieu. Vous voyez que c'est une séance un petit peu à part. C'est un peu une séance à la fois méthodologique, théologique, et qui nous permet d'entrer dans le sujet, dans le vif du sujet. Première séance, finalement, sur Dieu. sur Dieu et sur comment est-ce qu'on peut dire quelque chose sur Dieu. Comment est-ce qu'on peut connaître Dieu, finalement. Et j'aimerais vous rendre attentif à plusieurs aspects. Tout d'abord, on a tendance à parler de Dieu comme d'un Dieu unique. Mais il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs approches. Il y a l'approche notamment polythéiste et l'approche monothéiste. L'approche polythéiste, c'est celle qui consiste à dire qu'il y a plusieurs dieux, pas forcément des dieux de même nature ou de même statut, mais en tous les cas, une sorte de plérôme ou une sorte de panthéon qui offre la particularité de présenter plusieurs images, plusieurs aspects. Et j'évoque la question du polythéisme parce que justement, dans la mesure où nous allons balayer plusieurs images de Dieu, on est en droit de se demander s'il ne s'agit pas de plusieurs dieux en fait. C'est la question qui est posée à ceux qui défendent le principe de la Trinité, est-ce que la Trinité ne rendrait pas témoignage de trois dieux différents? Alors, il y a d'un côté le polythéisme, et puis de l'autre côté le monothéisme. Et dans ce monothéisme, qui, jusqu'à preuve du contraire, est ce qui est proposé comme compréhension de Dieu par le christianisme, mais aussi par l'islam et le judaïsme, le monothéisme, il y a deux façons de l'envisager. Donc là, c'est vraiment une question de méthodologie que je vous offre. Il y a des religions avec un monothéisme primitif ou un monothéisme originel. C'est l'idée selon laquelle il y a une révélation primitive qui, dès le départ, donne la vérité sur Dieu. Pour vous donner des éléments culturels, c'est quelque chose qui a été développé par l'école de Vienne, avec quelqu'un comme Wilhelm Schmidt au fin 19e siècle. Donc une révélation primitive qui pose qu'il y a un Dieu unique. Il ne semble pas que cela se passe comme ça dans les textes bibliques. Et il ne semble pas que cela se passe comme ça dans le judéo-christianisme. La deuxième façon d'aborder le monothéisme, c'est la thèse évolutionniste, en fait. Et pour ceux que cela intéresse, c'est notamment James Frazer, F-R-A-Z-E-R, qui va développer ça. L'idée est la suivante. C'est qu'il y a un progrès continu dans la connaissance de Dieu par étapes successives. Et finalement, il y a en quelque sorte une éducation de la foi qui nous fait passer de l'animisme, c'est-à-dire les êtres animés qui seraient porteurs d'une étincelle divine, ou Dieu qui serait présent dans les choses animées, l'animisme, au totémisme. Donc le totémisme, vous en avez des traces avec les cultes organisés autour de ces pieux sacrés, par exemple. Mais au-delà des totems, des pieux sacrés, il y a, je dirais pas le fétichisme, mais bon, les anthropologues l'ont assez bien exprimé, des objets à caractère sacré qui manifestent le divin. Et qui, en général, manifestent le divin dans ses attributs les plus virils qui soient. Ensuite, le polythéisme, qui serait une étape suivante. Après, un terme intéressant, l'énothéisme, E-N-O, et théisme plus loin, qui conduit au monothéisme. La différence entre énothéisme et monothéisme est la suivante. Le monothéisme, c'est de confesser qu'il n'y a qu'un seul Dieu. L'énothéisme, c'est de dire qu'il y a peut-être plusieurs dieux, mais nous ne plaçons notre confiance que dans un seul. Abraham est énothéiste. Abraham semble considérer qu'il y a plusieurs divinités, mais lui ne fait foi, ne place sa confiance que dans une seule, celui qui l'envoie loin de sa terre, de son pays, de sa famille. Les exégètes disent que le monothéisme strict, pur, n'apparaît qu'à l'époque d'Ésaïe. Le deuxième Ésaïe, c'est-à-dire l'exil à Babylone. Peut-être que le foisonnement des divinités à Babylone a conduit par réaction le peuple hébreu à se jeter dans les bras d'une divinité unique, un peu par réaction à l'excès. Ça serait, disons, une explication sociologique. Une autre explication, c'est l'explication qu'on appelle médiologique. C'est Régis Debray qui a écrit un livre là-dessus, qui s'appelait « Itinéraire de Dieu ». Régis Debray qui explique que l'évolution vers le monothéisme est une évolution qui s'explique par la technique. Et au fond, la médiologie, c'est de dire ce sont les moyens que nous avons à notre disposition, les médias, qui expliquent le rapport que nous avons au divin. Et ce que Régis Debray explique, par exemple, c'est qu'un peuple qui est en quelque sorte condamné au nomadisme parce que trop faible pour résister, donc obligé d'avoir des bagages pour le voyage, a une série d'ustensiles de plus en plus modestes, de plus en plus réduits. Quand on peut se ficher en terre, quand on peut s'enraciner, on peut construire des cathédrales. Quand on est en quelque sorte condamné à l'exil ou à l'exode, eh bien, on développe une foi du fort intérieur, de plus en plus. Et comme on n'a plus la possibilité d'avoir ce jardin, ce panthéon, eh bien, on se réfugie dans un dieu qui va centraliser toutes les caractéristiques qu'avaient les autres dieux. Fertilité, le dieu de la guerre, le dieu de la sagesse, etc. Donc, voilà l'explication de Régis Debray qui vaut ce qu'elle vaut. Mircea Eliade, qui a étudié les religions de façon assez exhaustive, même si il semble que les chercheurs à notre époque contestent un peu ces résultats, avait quand même observé que le sacré primitif avait des tendances qui variaient selon les époques, et qu'on ne pouvait pas dire que les religions allaient nécessairement vers la pluralité ou nécessairement vers l'unicité. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y a un modèle religieux qui conduirait au polythéisme ou un modèle religieux qui conduirait au monothéisme. Et il semblait qu'on ne puisse pas indiquer quelle est la direction que prennent les religions. Une religion n'a pas en son sein une propension à être définitivement polythéiste ou définitivement monothéiste. Pour ma part, peut-être de façon un peu polémique, je considère quand même qu'une partie du christianisme a plongé dans le polythéisme avec cette histoire de la Trinité. Je dirais non pas forcément dans les textes doctrinaux des théologiens, mais dans l'esprit de beaucoup de paroissiens, il y a quelque chose qui a confiné au polythéisme, et le culte marial a contribué à rendre les choses encore plus confuses dans l'esprit de certaines personnes, me semble-t-il. À côté de cela, il me semble que dans un certain protestantisme libéral, par exemple, notre monothéisme confine parfois à une sorte d'animisme, où la nature devient le lieu où Dieu s'exprime. La théologie naturelle a été remise au goût du jour par quelques théologiens du protestantisme libéral. Voilà, donc pour vous dire que les choses sont très éclatées. Alors comment on fait pour découvrir Dieu maintenant, après ce panorama? Eh bien, il y a deux manières. Il y a soit par le fait de Dieu, soit c'est Dieu qui se révèle. On appelle ça une hiérophanie. Hiéros, c'est le temple, donc, ou le sacré. Hiérophanie, c'est quand voilà, le sacré se manifeste. Si on veut préciser par rapport à Dieu, c'est théophanie. Phanein, c'est briller, être, ouais, se manifester. Mircea Eliade avait utilisé un terme indien, c'est la mana. Mana, c'est la manifestation du sacré, du divin. Donc, Dieu qui vient à notre rencontre, Dieu qui se révèle, Dieu qui lève le coin du voile. L'autre possibilité, c'est l'action de l'homme. L'action de l'homme qui va observer, qui va réfléchir et qui va penser à Dieu. Et dans ce cas, c'est ce qu'on appelle le mythe. La rédaction du mythe, c'est ce qui permet de dire quelque chose d'intelligible, c'est-à-dire quelque chose que l'on peut partager avec un autre, sur le divin. Je vous donne la définition de Paul Ricoeur sur ce qu'est un mythe, vous n'êtes pas obligé de noter. Le mythe, écrit-il, est un récit traditionnel qui rapporte des événements arrivés à l'origine des temps. Donc, vous voyez, un moment de l'histoire auquel personne n'a accès, évidemment, et qui est destiné à fonder l'action rituelle des hommes d'aujourd'hui. Vous voyez, c'est l'idée d'enraciner notre pratique actuelle, contemporaine, présente, dans une sorte d'événement originel. Donc, qui est destiné à fonder l'action rituelle des hommes d'aujourd'hui et, de manière générale, à instituer des formes d'action et de pensée par lesquelles l'homme se situe dans le monde. C'est-à-dire, un mythe est un récit qui parle des origines pour essayer de donner à l'homme un sens à sa place dans le monde, qui explique sa place dans le monde. Prenons un mythe qui nous est proche, le mythe gaulliste de la France qui, à un moment donné, était à Londres. Donc c'est l'idée selon laquelle la France n'a jamais capitulé finalement devant l'Allemagne, ou la France n'a pas collaboré, parce que la France n'était pas à Vichy, la France était à Londres. Un peu rapidement, on pourrait dire c'est beau, mais c'est faux sur le plan historique. Mais c'est un mythe qui peut fonctionner pour fonder une communauté et qui peut être juste du coup. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas forcément vrai sur le plan historique, sur le plan de la continuité des événements, mais qui peut être juste parce qu'il y a finalement une sorte de pacte républicain qui dit « Eh bien, aujourd'hui, nous nous reconnaissons dans cette action qui s'est tenue à Londres et dont nous voulons être les héritiers. » C'est-à-dire que notre avenir, nous voulons le construire par rapport à cet acte de résistance, par rapport à cet acte fondateur, et nous nous reconnaissons dans cet acte, donc nous sommes fils et filles de cet homme, de cet acte, de cette résistance. Voilà, c'est un mythe qui essaie d'expliquer quelle est notre intention, notre état d'esprit à l'heure actuelle. Si on prend le mythe de la Genèse, avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, on peut, si on le souhaite, prendre au pied de la lettre ce récit en disant « Il y avait donc un jardin avec un arbre qui était au milieu du jardin avec les fruits de la connaissance du bien et du mal. » Bon, si on lit un peu plus loin le récit, on voit qu'au milieu du jardin, il y avait aussi l'arbre de la vie, donc c'est un petit peu ambigu. Toujours est-il que les personnages qui sont impliqués dans ce récit goûtent du fruit et la connaissance du bien et du mal, c'est de voir qu'ils seront nus, ce qui est quand même, comme je vous l'avais dit l'an dernier, un savoir bien limité. Et c'est un mythe qui nous dit, en fait, on n'a pas accès au bien et au mal dans toute sa pureté. C'est un mythe qui, en quelque sorte, pose des frontières. Il nous dit, on n'est pas omniscient, précisément. Donc, c'est un mythe qui cherche à nous dire aujourd'hui quelque chose plutôt que d'expliquer comment les choses se sont passées au début. Bien entendu, Genèse 1, le récit de la création en 7 jours, est un mythe parce que personne n'était là pour savoir comment les choses se sont passées. Moïse ne dit pas avoir bénéficié d'une révélation particulière. Donc c'est l'effort de l'homme pour comprendre Dieu et sa place personnelle dans la création. Voilà. Ce que diraient aussi bien les anthropologues que les psychanalystes que les exégètes, c'est que le mythe nous fait pénétrer dans la forêt du symbole. Et nous y voilà. Il n'est pas possible d'avoir accès au sacré autrement que par le symbolique. Et ça, c'est une remarque préliminaire décisive, parce que, évidemment, elle informe notre lecture biblique. Et c'est pour cela aussi que j'ai intitulé cette première séance « Voir Dieu », parce que c'est un peu polémique. On verra à la fin, « Voir Dieu », personne ne l'a jamais vu. Bien. Pourtant, on va s'intéresser à ces images. Il y a là quelque chose de dialectique qui est juste. Sur le plan de l'expérience. Le symbole, c'est ce qui renvoie à une autre réalité. C'est le symbole, c'est ce qui permet de toucher à l'invisible. Le symbole, c'est ce qui va même nous permettre de faire des expériences non sensibles. Alors, je m'explique un petit peu là-dessus parce que je trouve que c'est assez intéressant. On a 5 sens. Vous savez, le toucher, l'ouïe, l'odorat, etc. Tout ce que nous éprouvons passe par ces 5 sens, d'une manière ou d'une autre. Quand nous voulons connaître quelque chose, nous mettons en œuvre ces sens. Voilà. On vous fait une dégustation à l'aveugle, les papilles fonctionnent. Vous voulez découvrir quelle est la théologie d'une paroisse, vous allez à un culte, vous regardez et vous écoutez. Voilà. Les sens sont toujours mobilisés. Sauf que les 5 sens n'arrivent pas à rendre compte de toutes les expériences. Il y a aussi des expériences non sensibles. Le divin en fait partie. C'est-à-dire que vous ne voyez pas Dieu, vous ne l'entendez pas, vous ne le lisez pas, vous ne le touchez pas et vous ne le sentez pas. Et pourtant, vous éprouvez quelque chose du divin. Ça se passe par des expériences non sensibles. Le symbole est destiné à jeter en quelque sorte de la poussière sur ces raies de lumière pour les faire apparaître. Ce qui est vrai pour le divin est vrai pour bien d'autres aspects. Les relations amoureuses. Alors vous allez me dire, l'être aimé, vous pouvez le mettre au bout de vos lèvres, etc. Bon. Mais le sentiment amoureux, ce qui unit deux conjoints qui peuvent vivre un célibat géographique sans avoir le téléphone mobile pour se parler. La présence de l'autre reste véritable en dépit de l'absence. Il y a une expérience non sensible. On peut le dire des conjoints, on peut aussi le dire à l'occasion d'un deuil. La personne défunte reste étonnamment présente, alors que, bien sûr, nos sens ne peuvent plus être en communication avec. Et pourtant, on peut ressentir, en quelque sorte, la présence de la personne qui nous a quittés. Eh bien, voilà ce que les textes bibliques vont essayer de mettre en œuvre. Des expériences non sensibles. Alors, on va commencer maintenant à apprendre les textes bibliques, tout de même. Mais rassurez-vous, je ne vais pas m'arrêter de parler pour autant. Les textes bibliques que je vous ai choisis vont nous permettre de faire un petit parcours exhaustif, je crois, à propos du voir. Et on va commencer par le ne pas voir et le ne pas entendre. Alors, je vous ai mis les textes bibliques dans une traduction Louis II. Vous pouvez, si vous le souhaitez, les comparer avec d'autres éditions, d'autres traductions. Il y a tout d'abord, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 3, l'expérience de Samuel, qui est au service du prêtre Élie. Et puis le fameux psaume 22, celui-là même que Jésus prononce sur la croix, qui dit plus que ce que Jésus dit. Je vous ai à chaque fois choisi un extrait pour, en quelque sorte, poser les bases de ce parcours sur voir Dieu. Alors peut-être que quand même on va partager la parole. Comme vous avez le texte sous les yeux, quelqu'un peut peut-être lire tout d'abord 1 Samuel 3, dans la version qu'il souhaite. Il y a trois versets. Merci François.
Le jeune Samuel est au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu.
C'est bon, on va s'arrêter là. La suite est intéressante, mais comme on a beaucoup de textes, j'étais obligé de sectionner un petit peu. Parce que justement, je prends comme texte préliminaire, dans ces trois versets, la difficulté qu'il y a à être en communication avec Dieu. Vous voyez, je voulais vous rendre attentif au fait que la parole de l'Éternel était rare en ces temps et les visions n'étaient pas fréquentes. Une expérience bien contemporaine, me direz-vous. Parce que ceux qui peuvent se targuer d'avoir entendu Dieu ou de l'avoir vu récemment ne sont pas légion. Eh bien, vous voyez, c'est une question que le texte biblique prend au sérieux, assume. En ce temps-là, la fréquentation de Dieu était loin d'être évidente. Comme c'est un texte un peu connu, je ne vous ai pas tout mis. Vous voyez que la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Alors, ce n'est pas tout à fait une lampe comme on en a dans les églises catholiques qui symbolisent la présence de Dieu, mais c'est un peu cela. C'est l'idée selon laquelle Dieu est effectivement présent, mais dans la pensée biblique, il est présent parce qu'il y a l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance est le trône de Dieu dans le récit sacerdotal. L'Arche d'Alliance, c'est ce qui va être posé dans le Saint des Saints, le lieu le plus sacré de la terre d'Israël, là où le grand prêtre entrera une fois par an pour Yom Kippour. Et il y a des chérubins dont les ailes forment, un peu symboliquement, un siège sur lequel Dieu peut trôner. Donc, Dieu est là, puisque le siège est là, son trône est là. Et pourtant, on ne le voit pas beaucoup. Et on ne l'entend pas beaucoup. Donc, premier aspect, Dieu difficile à discerner. Alors, vous me direz, c'est parce que Élie, dont on connaît l'histoire, était quelqu'un qui n'était pas très bien intentionné. On peut dire que c'est une mauvaise disposition intérieure de cet homme. Élie a des fils qui sont un peu stigmatisés par leur corruption. C'est pour cela que je vous ai mis le psaume 22 à côté. Si quelqu'un peut lire les versets 1 à 7 de ce psaume bien connu aussi. Merci Jean-Claude.
Donc, psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes?
Si, c'est ça, c'est bien. Oui, il n'a pas précisé que c'était sur l'air de Biche de l'Aurore, Biche au ma biche, quand tu me souris, etc. C'est la pudeur de Jean-Claude qui l'a obligé. Non, parce qu'on ne connaît plus l'air de la chanson.
Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient à toi, en toi, et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête.
Merci. Donc vous voyez là, clairement, le psalmiste est une personne on ne peut mieux disposée à entendre Dieu, puisqu'il crie même vers Dieu. Il est vraiment dans une attitude priante. Et pourtant, il stigmatise un silence assourdissant de Dieu. Donc c'est un texte en quelque sorte rassurant lorsque nous avons l'impression que le divin serait sourd à notre prière, lorsque nous avons le sentiment que nos prières ne sont pas exaucées. Maintenant, la question est de savoir pourquoi ce silence. Alors là, voilà, on est suffisamment nombreux pour essayer de balbutier un peu des éléments de réponse. Comment se fait-il que Dieu ne se manifeste pas à son peuple, ou à nous-mêmes, en fait, hein. Comment se fait-il, voilà, qu'il y ait cette zone d'ombre, ce blackout?
Parce qu'il s'imagine que Dieu est à leur image. C'est l'homme qui est à l'image de Dieu. Et là, on fait Dieu à notre humain.
Absolument. Voilà. L'un des drames, c'est d'imaginer que Dieu soit dans une relation interpersonnelle semblable à celle que nous établissons d'homme à homme. Et comme le dit François, finalement, nous projetons sur Dieu notre façon de communiquer et nous attendons qu'en retour, Dieu agisse à notre manière, de notre manière, à notre image. Voilà. Et ce qui est vrai pour ce texte l'est aussi pour 1 Samuel 3. Si vous connaissez la suite de l'histoire, à un moment donné, Dieu appelle Samuel. Samuel se lève, il va voir le prêtre Élie. Il lui dit « Oui, tu m'as appelé ?» Et Élie lui dit « Non, non, je ne t'ai pas appelé. » Le scénario recommence plusieurs fois, jusqu'à ce que Élie, le prêtre, se dise « Mais dans ce cas-là, c'est peut-être que c'est Dieu lui-même qui appelle Samuel. » Et il lui donne finalement pour consigne de se mettre devant Dieu en répondant « Me voici ». Voilà. Donc, découvrir qu'il y a entre Dieu et l'homme un mode relationnel auquel on n'est pas habitué, c'est-à-dire quelque chose qui ne relève pas de notre habitude. Il y a un apprentissage à faire. Et c'est vrai aussi pour le psaume 22. Il est un peu long, vous lirez la fin chez vous, c'est un psaume qui finit très bien. D'ailleurs, on peut se dire, si Jésus dit ce psaume sur la croix, c'est peut-être pour nous inviter à dire nous-mêmes ce psaume, un psaume qui finit bien, plutôt que d'y entendre simplement l'abandon de Dieu. Mais peut-être justement l'occasion pour Jésus de dire « Que votre regard ne s'arrête pas sur cette croix, le psaume ne s'arrête pas là, l'espérance ne meurt pas là. L'espérance du psalmiste ne meurt pas dans le silence de Dieu. » Au-delà du silence, il va découvrir une joie que Dieu construit selon d'autres modalités précisément. Donc, premier aspect, Dieu difficile à discerner parce que justement, il faut que nous nous déshabituions de nos modes de communication. La prière, puisque c'est de cela dont il s'agit, la prière est effectivement un dialogue avec Dieu, mais il ne faudrait pas imaginer que c'est un dialogue comme ce que nous pouvons avoir avec nos amis. Je parle, il écoute, il me répond, je l'entends. Le processus va être un peu plus complexe. On passe à la série de textes qui est en dessous. Après la remarque préliminaire sur les difficultés de la communication, deux textes sur l'interdiction, en quelque sorte, de la communication visuelle. Premier passage dans le livre de l'Exode au chapitre 33. Pour vous situer un peu les choses, c'est juste avant le don du décalogue. 10 paroles, non pas celles d'Exode 20, mais celles d'Exode 34. Si quelqu'un peut lire les versets 18 à 23 du chapitre 33 de l'Exode.
Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue.
Merci. Bien. C'est un peu stupéfiant cette histoire. Alors, la gloire. Donc, en hébreu, c'est kavod. Ce qui est intéressant, c'est la traduction grecque des Septante, parce que ça a été traduit par seauton. Seauton, ça veut dire toi-même. Fais-toi voir toi-même. Montre-moi toi. Fais-moi voir toi. Fais-moi voir toi-même. La gloire, c'est tout simplement l'être de la personne. Enfin, tout simplement. C'est comme si c'était simple. Quand Moïse demande à Dieu de lui faire voir sa gloire, c'est une façon révérencieuse de lui dire « montre-toi ». Oui, sa personne, tel qu'il est, non pas médiatisé à travers un décalogue, à travers des préceptes, mais d'homme à homme en quelque sorte, si vous me permettez cet anthropomorphisme.
Mais pourquoi oui. Est-ce que ce mot, d'autres, on traduit ce mot par gloire ?
Parce que second traduit le texte hébreu, et dans le texte hébreu, c'est gloire, c'est kavod. La gloire, c'est en quelque sorte l'existence de quelqu'un. Vous voyez, quand on a dans le décalogue « tu honoreras ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent ». Le verbe, c'est « tu glorifieras ton père et ta mère ». C'est le verbe « kavod ». C'est donner du poids. Hein, je vous l'avais dit, je pense, la dernière. Donner du poids, ça veut dire aussi « charger ». Et au fond, j'aime bien cette lecture de Daniel Siboni qui dit, à propos de ce verset « Tu honoreras ton père et ta mère, tu glorifieras ton père et ta mère, tu donneras du poids », c'est qu'il s'agit de faire un droit d'inventaire, c'est-à-dire que tu les chargeras aussi de ce qui leur appartient. Et donc, on est dans un rapport existentiel. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement ce qu'ils sont en tant que parents, ce n'est pas simplement le statut, c'est aussi la manière qu'ils ont eu d'être parents. La manière qu'ils ont eu d'endosser cette responsabilité parentale. Donc c'est vraiment eux, personnellement, qui sont impliqués. C'est pas, il faut honorer les parents en général, il s'agit de nos parents factuellement, et donc glorifier, c'est donner du poids, et le poids que nous avons, c'est en quelque sorte le fruit ou la rançon de ce que nous avons fait. Pourquoi c'est donner du poids qui symbolise la gloire ? Parce que c'est l'opulence. C'est-à-dire quelqu'un qui est glorieux, quelqu'un qui est lourd, c'est quelqu'un qui est bien nourri. S'il est bien nourri, c'est parce qu'il a réussi. Et il y a cette idée-là dans le Proche-Orient ancien. Moi, je fais figure de mendiant, quoi. Je suis le type qui n'a pas réussi avec mon profil. Donc, la gloire, c'est la personne avec ce qu'elle est, mais ce qu'elle est même au-delà d'elle-même, l'existence, quoi. Le fait de se tenir hors de soi dans une relation à l'autre. Et c'est pour cela que l'interprétation de la Septante est intéressante. C'est auton, toi-même. Ta gloire, c'est ton identité.
Ton importance, ton prestige, ta richesse.
C'est même ta renommée, ta fama. La renommée, la fama. Le CV. Le CV, il peut être minable. Ouais. Comme dirait San Antonio, ton blaze. Ton nom, le blason, quoi. Enfin, tes armes, quels sont tes titres de noblesse? Il faut lire son Antonio un peu. Bien. Ce qui est intéressant ici, c'est l'interdiction de voir Dieu. L'impossibilité, l'interdiction. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. En fait, c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est quoi cette histoire de l'homme ne peut me voir et vivre? Est-ce que c'est pas l'inverse de ce qu'on peut imaginer pour un croyant? Est-ce que le croyant, il vit pas pour voir Dieu, justement? Non, vous ne vivez pas pour voir Dieu, d'accord.
Pour le sentir.
Pour le sentir, d'accord.
Est-ce qu'on a besoin de voir Dieu?
Mais ça veut dire de voir, c'est dans quel sens?
C'est plutôt le connaître.
Oui, bon,
si on le voit,
oui,
c'est
je vous écoute.
Oui,
je sais pas si j'ai bien compris.
Si on le voit, c'est pas.
C'est pas le sujet de la gloire. Quand vous disiez, honorer son père et sa mère, c'est un peu rendre compte de tout ce qu'ils ont fait
Oui. Vous avez entièrement raison. Au fond, cette interdiction, on peut le comprendre soit comme une sorte de remise en place. Vous voyez, on dit l'homme n'est pas digne. Voilà. Mais dans, par rapport à ce que vous venez de dire, ce qui me semble beaucoup plus juste, c'est que l'homme n'est pas capable de, d'avoir une vision globale, une vision d'ensemble du divin. C'est exactement le livre de Job. Job se révolte contre Dieu parce qu'il ne comprend pas la justice de Dieu. Et il y a de longs chapitres d'un dialogue entre Dieu et Job où Dieu remet Job à sa juste place en lui disant que, un, il n'était pas là lorsque le monde a été fondé, il n'était toujours pas là lorsque l'histoire a commencé à se dérouler, et quand bien même on ne s'intéresserait qu'à l'époque actuelle, nous n'avons qu'une connaissance partielle de l'histoire à un moment X. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il se passe des milliers d'événements à travers le monde, à l'instant T, et nous n'en avons pas la connaissance. Et donc, c'est effectivement une façon de dire que notre savoir est limité et que ce serait non seulement orgueilleux, mais tout à fait illusoire de prétendre embrasser Dieu d'un seul regard. Donc, en quelque sorte, c'est une mise en garde. C'est moins une interdiction qu'une mise en garde contre le fait que c'est un peu impossible. C'est la raison aussi pour laquelle il est interdit de prononcer le nom de Dieu. Avec ce que nous venons de dire sur la gloire, le nom de Dieu, c'est une façon de préciser l'identité de quelqu'un. Et c'est aussi une façon d'avoir en quelque sorte une connaissance et un pouvoir sur cette personne. Vous savez, quand vous allez chez votre boulangère et qu'elle vous appelle par votre nom, bon, bah, elle vous tient déjà un peu et vous achetez une deuxième baguette. Quoi. On résiste plus difficilement quand quelqu'un nous connaît par notre nom, c'est un argument de vente, etc. Enfin, voilà. Oui, François. Tu parles du verset 22 ?
Oui.
Au 19, oui. Mais au verset 22, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. C'est-à-dire que... Il... Oui, oui.
Je te tournerai de l'autre côté pour pas que tu la vois.
Exactement. Alors, non, c'est pour dire qu'il répondait quand même à la demande, puisque c'est bien de gloire dont il sera question, mais c'est peut-être aussi parce que la bonté est finalement l'une des caractéristiques principales de Dieu. Vous voyez, c'est peut-être ce que nous avons à découvrir, c'est la bonté de Dieu. Et effectivement, il va lui-même protéger Moïse de cette impossibilité de le voir, de cette interdiction, mais plutôt de cette impossibilité, en le protégeant avec la main. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce que dit le chapitre 34. Quand il lève la main, que voit Moïse ? Donc les arrières de Dieu. Et quelles sont ces arrières de Dieu ? Ce sont les 10 paroles.
C'est déjà, ou c'est, je ne sais pas comment c'est, peut-être pas déjà, mais c'est heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, en fait. Il ne veut pas qu'on voit, donc, mais il nous demande de croire quand même.
Oui.
D'avoir confiance.
Oui.
Ou quelque part, je ne sais pas si c'est dans un sens ou dans le fond. Je sais pas si
Dieu
c'est...
met une distance dès le départ.
Exprès.
Même distance entre la création et lui, quoi. La créature et lui.
Oui. Il y a...
Il nous démunit du sens de la vue, déjà. Il nous enlève le sens de la vue.
Oui, et de toute façon, de manière générale, de tout ce qui peut le saisir. Je pense que le terme « saisir » est le plus approprié. Dieu est l'insaisissable. On ne peut le saisir ni par nos sens, ni même par nos facultés cognitives, disons. si on prenait le terme d'épistémologie, c'est-à-dire la science de la connaissance. D'un point de vue épistémologique, quelle méthode pour connaître Dieu ? Je vous ai dit, soit Dieu vient vers nous, c'est la hiérophanie, théophanie, mana, soit c'est nous qui inférons en quelque sorte. On a quelque chose, on a le théâtre sous les yeux, on imagine à quoi peut ressembler le metteur en scène. Calvin dit, ça, ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que vous regardez la pièce de théâtre que vous savez qui est le metteur en scène ou que vous le connaissez. Vous voyez un film, vous ne connaissez rien du réalisateur, en fait. Vous pouvez toujours faire des suppositions, faire des lectures psychologisantes. C'est vrai pour un roman et son auteur. Il y a effectivement une rupture qui est posée par le texte biblique. Et on va voir avec 2 Samuel 6 à quel point il y a une radicalisation de cette rupture. Mais c'est parce que cette rupture, elle est posée aussi entre nous. Il y a un texte intéressant dans le Lévitique, c'est le chapitre 19. C'est l'interdit de la nudité. Bon, un paragraphe tout à fait étonnant. Grosso modo, il ne faut pas que la mère soit vue nue par son fils, etc. Enfin, il y a toute une série de cas où il ne faut pas que quelqu'un soit vu nu par quelqu'un d'autre. On peut dire, voilà, c'est des règles morales, etc. Une fois de plus, cet interdit, je pense que c'est plutôt, il faudrait le comprendre comme une impossibilité. L'impossibilité pour nous de connaître l'autre parfaitement. C'est-à-dire, la nudité, c'est le symbole que l'autre n'a plus rien à cacher. L'alletheia, la vérité, c'est quand il n'y a plus rien de caché. On a levé le voile. Eh bien, cet interdit de la nudité, à mon avis, c'est un travail pour éviter que nous vivions de l'illusion que nous pourrions connaître l'autre par cœur, que nous pourrions en faire le tour. Et ce chapitre 19 du Lévitique se poursuit ensuite par le commandement de l'amour, qui est cette dynamique dans laquelle Dieu nous inscrit de toujours aller vers l'autre. C'est aussi ce qu'on trouve dans le Cantique des Cantiques. Les amoureux n'en finissent jamais d'aller l'un vers l'autre. Ils n'en finissent jamais de faire connaissance l'un l'autre. Le mariage n'est pas le moment où, ça y est, tout est joué. Non, c'est une étape. De même, ici, il y a cette idée qu'il y a effectivement une rupture, un écart différentiel. Et si on n'en tient pas compte, on peut vivre dans l'illusion que l'on serait à un moment donné, dans la proximité de Dieu et que l'on saurait tout sur Dieu. Le théologien est celui qui sait qu'il ne sait pas. Un peu la méthode des philosophes grecs. Lisons le chapitre de Samuel, 2 Samuel, chapitre 6, versets 3 à 7, si quelqu'un pouvait les lire. C'est un chapitre assez scandaleux. Charmant ? Parce que là, il y a une mise en application de l'interdit.
Il a eu la prétention
de l'empêcher de faire. C'est l'illustration de ce que tu nous disais à l'instant, que Dieu est insaisissable.
Oui.
En toutes circonstances.
C'est ça. Alors, vous voyez, ce genre de texte, il faut. Enfin, moi, je ne peux pas le laisser en l'état comme si de rien n'était, parce que il convient d'entendre une possibilité de le lire, que je vous propose. Puis après, vous pouvez toujours vous dire, c'est un récit historique, ça s'est passé comme ça, mais effectivement, on peut considérer que cette personne a été punie par Dieu et que cette personne a été en quelque sorte foudroyée sur place là. Pourquoi ? Parce que cette personne a voulu éviter que l'Arche d'Alliance tombe et se casse. Vous vous rendez compte à quel point il y a une iniquité là. Quelqu'un qui veut bien faire, c'est-à-dire éviter que l'Arche d'Alliance s'abîme, est puni pour avoir posé la main et l'avoir retenue. Grosso modo, pour avoir empêché qu'elle s'abîme. Et une sorte de paradoxe un peu lourd. Alors, il y a deux choses que j'aimerais dire à ce sujet, mais pour que vous les entendiez, pas pour que vous le preniez argent comptant. La première chose, c'est que les livres de Samuel constituent dans la Bible des livres éminemment pédagogiques, c'est-à-dire des livres qui, à mon avis, étaient utilisés pour la catéchèse à l'époque du peuple hébreu. Et cela a deux incidences. La première, c'est qu'il y a de nombreux enseignements, et les deux livres de Samuel, je trouve, fourmis d'enseignements qui sont magnifiques pour la foi, mais qui demandent aussi d'être médités, mâchés, etc. Deuxième chose, parce que c'est de la catéchèse, il faut que ce soit pédagogique, il faut que ça frappe les esprits. Et pour que ça frappe les esprits, il faut des éléments qui soient un peu tranchants, qui soient suffisamment forts pour marquer l'esprit et qu'on puisse se souvenir des épisodes. Les premiers chapitres de la Genèse fonctionnent un peu comme ça. C'est très caricatural et les enfants se souviennent bien de ces histoires-là. Le livre de Samuel est assez peu raconté de nos jours à nos propres enfants ou petits-enfants, mais si on le faisait, ils se souviendraient bien, parce qu'un épisode comme ça, on ne l'oublie pas. Donc je pense que c'est un procédé mnémotechnique. Un procédé mnémotechnique pour se souvenir d'une histoire qui a un sens. Et le sens, c'est celui que nous avons déjà évoqué au sujet d'Exode 33. Je vous avais dit saisir. Il n'est pas possible de saisir Dieu. Eh bien, on peut utiliser un autre mot, comprendre. Dans comprendre, il y a prendre. Porter la main. Comprendre, après, on en a fait un terme qui est en rapport avec l'intelligence. Ici, on a Usa qui est plein de bonne volonté. Usa qui étend la main sur l'Arche d'Alliance pour la saisir parce que les bœufs la faisaient pencher, qu'elle risquait de tomber. Eh bien, ce texte dit, Usa n'a pas eu la possibilité de saisir l'Arche d'Alliance. C'est-à-dire que on ne peut pas saisir, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas prendre Dieu finalement. Parce que on dit que c'est le trône de Dieu, mais évidemment, personne n'a jamais vu Dieu comme on se voit, vous et moi, sur ce trône. Donc, toucher le trône, c'est toucher Dieu. Comme dans le livre d'Esther, toucher le sceptre, c'est avoir accès au roi. Donc, ce texte, à mon avis, est assez fort sur le plan de la forme de ce qui est raconté pour qu'on se souvienne de cette histoire-là. Le sens de cette histoire, c'est que il n'est pas possible de mettre la main sur. C'est interdit au sens où il n'est pas possible de. Dieu est, dans une certaine mesure, inaccessible. Alors, dans une certaine mesure, je comprends que ce genre de lecture puisse créer une sorte de déception, parce que ça minimise un peu la portée de ce texte, ça la relativise. Mais c'est une lecture qui entre en dialogue avec d'autres textes où l'on voit que Dieu ne rechigne pas à se révéler. On voit que Dieu ne rechigne pas à être connu de son peuple. Et donc, ma lecture, à mon avis, est fondée, mais je ne veux pas dire que ce soit la seule possible, en ce sens que ce texte nous dit « Dieu, on peut faire sa connaissance, mais cette connaissance, elle se fait toujours par l'intermédiaire de quelque chose. On ne peut pas avoir une connaissance directe, et on ne peut pas être au contact immédiat de Dieu. » C'est-à-dire que ce que nous disons de Dieu est déjà toujours défectueux. Paul Tillich dit Dieu est toujours au-delà de Dieu, toujours au-delà des images que l'on se fait de lui, toujours au-delà de nos discours. C'est Dieu au-dessus de Dieu. Ce texte dit cela, à mon avis. C'est que là où on pense pouvoir comprendre Dieu, on voit que Dieu nous échappe. Dans une certaine mesure, c'est vrai aussi dans les épisodes qui concernent Jésus. Jésus est toujours en train d'échapper à la foule, toujours en train d'échapper à ses disciples. Il n'est jamais là où on l'attend, et même mort, il n'y est toujours pas. C'est-à-dire qu'il est toujours insaisissable. Il ne fuit pas, il évite la mainmise. La transfiguration de Jésus dit cela aussi. Donc il y a Pierre notamment qui est toujours prompt à fonder l'Église. Et ils sont sur une montagne, un peu comme le Sinaï. Et puis donc il y a Jésus et puis notamment Élie et Moïse, si je ne m'abuse. Et Pierre, que fait-il? Il dit: il est bon que nous soyons là. Montons vite des tentes pour nous y installer. Figeons la situation. Voilà, on fixe. Eh bien non, en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas figer, fixer. Et la main, ça symbolise la fixation, la crispation. Comme on tient un outil, on pourrait tenir Dieu. Comme on tient la main d'un ami, on pourrait tenir Dieu. Et comprendre, je trouve que c'est le terme qui désigne le mieux cela. On ne peut pas comprendre Dieu complètement.
Pour revenir à 2 Samuel, peut-être replacer ce texte dans... Tu as dit que ça a l'air plus pédagogique, mais dans un certain contexte qui voudrait montrer que, en quelque sorte, les Hébreux, puisqu'il y a une marche, etc., avaient fini par presque s'approprier l'Éternel, avoir fait presque quelque chose, un copain, quelque chose d'usuel, toi, qu'on transportait avec soi. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir les deux versets suivants, 8 et 9, après ce qui est arrivé là. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uzza, d'un tel châtiment. Et puis, on dit verset 9, David eut peur de l'Éternel. Mm-hmm. Ça provoque un choc. Là,
Et puis ça continue parce qu'il y a une décision importante de David. Ouais. Ça continue, donc il continue parce qu'il y a une décision importante de David, du coup, après.
Oui, c'est qu'il ne veut pas. L'arche chez lui.
Exactement. Donc,
Dieu a voulu un peu frapper les esprits en disant vous avez commencé à m'approprier, en quelque sorte. Non, je ne suis pas quelqu'un qui s'approprie.
Voilà. Il y a dans la tradition juive la tradition des mitzvot. Les mitzvot sont les commandements. C'est-à-dire, à partir des textes bibliques, tout ce qu'il faut faire et tout ce qui est interdit de faire. Il y a 613 mitzvot. Parmi ces mitzvot, il y a un commandement qui dit « Il ne faut pas retirer les barres de l'Arche d'Alliance ». Donc, c'est bizarre parce que l'Arche d'Alliance, elle est destinée à être dans le temple de Jérusalem, posée de façon définitive. Mais il est interdit de retirer les barres, qui sont posées par des anneaux, justement pour que ce coffre, qui est le réceptacle des 10 paroles, la loi de Dieu, soit toujours prête au départ. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un rapport de mobilité par rapport à la loi. Il faut qu'en permanence, le trône du divin soit prêt au départ. Bien sûr qu'il est posé, mais il faut que symboliquement, il garde son caractère nomade, le mouvement. Et peut-être que si Salomon construit le temple, c'est parce que Salomon est quand même loin d'être le représentant de la foi monothéiste la plus belle qui soit. C'est-à-dire que c'est quand même celui qui va fréquenter des personnes franchement idolâtres et qui va remplir le temple de choses pas très orthodoxes et pas libérales pour autant non plus. Et peut-être que David, berger, important ça, il est berger. Peut-être que David est justement celui qui a un juste rapport au divin, parce qu'il est dans un rapport de nomadisme, qui se vérifie jusque dans son refus de, comme le rappelait François grâce au texte, de déposer le divin dans un lieu fixe et clos.
Mais c'est la contradiction, hein, tous ces textes.
C'est en tension, en tout cas, oui.
Parce que dans Exode, qu'on étudiait tout à l'heure, juste quelques versets avant, verset 11, l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle avec son ami.
Mm-hmm.
Donc il y a un climat, hein, l'Éternel parle avec Moïse comme il parlait avec son ami. Et puis là, dans le texte dans Samuel, là, on voit qu'il n'est pas question d'ami. Mm. Il n'est pas question d'ami, c'est une distance.
Oui. On dit même de Moïse qu'il parlait bouche à bouche avec Dieu.
Ah oui, face à face.
Oui, bouche à bouche, en fait, dit le texte hébreu. Et oui, mais c'est tout à fait différent de discuter avec quelqu'un et de le saisir.
De le voir.
Ou de le voir. C'est-à-dire que le problème de l'image, c'est qu'elle est arrêtée. On n'est pas dans le registre du film, on est dans le registre du statique. Et si c'est statique... Si c'est une image figée, ça veut dire qu'on n'est plus dans un rapport, au vivant. Et du coup, Dieu n'est plus le Dieu des vivants, il est le Dieu des morts ou des souvenirs, ce qui vaut à peine mieux. Moïse ou Abraham sont des personnes qui n'ont pas hésité à négocier avec Dieu. D'ailleurs, c'était, je ne sais pas si l'un ou l'autre d'entre vous était là samedi soir au Batignolles, c'était un peu le sens de la prédication d'Antoine Nouis, avec des discussions dignes de marchands de tapis. Hein, que ce soit pour sauver Sodome, ou que ce soit pour sauver le peuple qui, au lieu de célébrer Dieu, a fait le veau d'or, etc., au moment où Moïse recevait les tables de l'Alliance. Et l'un et l'autre négocient avec Dieu. Donc il y a un rapport extrêmement vivace, vivant. Un rapport de négociation qui dit bien le dialogue, la discussion, le partage de convictions, etc. Ça change de ces situations où d'un côté Moïse serait juste spectateur d'un Dieu qui passe et puis de l'autre cette personne qui bloque. À la limite, je suis pas rabbin et j'ai pas lu de commentaire rabbinique sur ce texte, mais je pense que certains rabbins diraient bien sûr qu'il aurait fallu ne pas porter la main sur l'Arche d'Alliance, il aurait mieux fallu qu'elle tombe et qu'elle se brise, parce qu'au moins, elle aurait été en mouvement. Au fond, cet homme arrête la marche de Dieu. Pas du destin, mais de Dieu. Et ça, en quelque sorte, c'est péché. Quand je dis péché, voilà, vous me voyez avec le petit sourire. Mais c'est mal. À chaque fois, je crois que ces interdits disent « c'est mal » au sens où ça pourrait nous donner le sentiment que c'est vrai alors que c'est faux. Vous voyez, la question de l'illusion. Prenons les deux textes suivants. Il y en a un, c'est un tout petit texte, c'est un verset, paradoxal mais intéressant. Ésaïe, chapitre 2, qui lit le verset 1. Tout petit. Bien. Bon, alors là, je vous laisse faire l'exégèse. Vous êtes devant ce verset, qu'est-ce que vous en dites ? Je ne comprends pas, n'est pas la bonne réponse. Bon, après, on a le détail. Hein. Après, on a le détail, on a l'intégralité des paroles.
On a dans un premier temps Dieu qu'on n'entend pas ou qui est loin et qu'on ne voit pas, et dans un second temps, là, on a une parole qui est présente.
Oui, mais on se concentre juste sur ce verset.
La parole d'Ésaïe, fils d'Amos, vit.
Ouais.
Elle touche Juda et Jérusalem.
Oui, donc là, très bien, vous avez relu le verset. Maintenant, vos réactions.
Ésaïe, c'est le prophète, si j'ai bien compris.
Ésaïe, c'est le prophète. C'est le chapitre 2 du livre du prophète Ésaïe.
Donc, c'est bien la parole de Dieu.
C'est bien la parole de Dieu dont il est question.
Ouais,
il n'y a rien qui vous pose problème. Alors, laissez-moi juste entendre Françoise.
Hein,
oui.
Justement, c'est ça que je ne comprends pas, c'est parce qu'on dit « vie » alors qu'on parle de la
parole. Eh bien voilà. Ça, c'est un énoncé paradoxal qui dit juste. J'ai pris la traduction de Darby parce qu'elle est juste par rapport à l'hébreu. Donc il s'agit bien de « dabar », parole, et du verbe « hadza », « voir ».
selon ses paroles reçues en vision.
Oui, voilà. Paroles reçues en vision, donc on n'est quand même pas loin. Les prophéties, ça atténue complètement le texte, on perd toute la dimension. Paroles reçues en vision, ça, voilà, on sent bien le paradoxe aussi. On pourrait dire, l'auteur biblique est un peu embarrassé. Oui, il est embarrassé, mais il trouve une solution à sa gêne. Voir une parole. Sur le plan sensoriel, ça ne marche pas, cette histoire. Mais, je vous disais, c'est de l'ordre du symbolique. Ça dit quelque chose de juste sur ce que cela provoque en nous. Nous, lorsque nous souhaitons nous mettre à l'écoute de Dieu, eh bien, ça nous met en garde contre cette illusion, une fois de plus, que lorsque nous prions Dieu avec des mots qui résonnent, la réponse sera constituée de mots qui résonnent de la même manière. Il se pourrait bien que la réponse de Dieu passe par un texte biblique, mais peut-être aussi un article de journal, peut-être une discussion avec un ami, peut-être quelque chose que nous voyons dans la rue et qui advient. À nous d'interpréter les signes qui ne seront peut-être pas dans le même registre que celui que nous avons eu pour interpeller Dieu. Et c'était ce que tu disais tout à l'heure, François, au sujet du psaume 22 notamment. On a tendance à projeter sur Dieu notre façon de communiquer. Et finalement, on fait Dieu notre image. Et on attend que Dieu réponde comme nous, nous communiquons. Et donc, ce texte est, vous voyez, en un petit verset, une manière de dire méfiance. On lit le livre de l'Apocalypse qui est à côté ? C'est le premier chapitre, 5 versets. Avec une jolie image de Dieu. Non, pas toujours les mêmes, partageons un peu la parole. Qui accepterait de lire ces versets de l'Apocalypse ? Oui. Voilà, donc c'est le livre de l'Apocalypse, et vous voyez, la référence c'est rêve, parce qu'en fait, apocalyptein, ça veut dire révéler, hein, donc c'est révélation en fait. Bon, vous voyez, au verset 11, on a ce glissement. Tu vois quelque chose et tu vas l'écrire. Et donc, vous voyez, il y a la transposition de quelque chose de spectaculaire en texte écrit, une mise en mots. Voilà, il y a un récit qui est en train de se composer qui pourrait bien devenir un mythe et qui sera peut-être fondateur, en tous les cas il l'est pour nous. Là, on a en fait la mise en écrit du texte biblique. Qu'est-ce que le texte biblique ? C'est l'effort de quelques personnes pour écrire un texte qui explique la relation que des hommes, à un temps donné, dans un lieu donné, ont avec leur environnement et avec ce qu'ils nomment le divin. Ils voient quelque chose et ils le rendent intelligible en l'écrivant. C'est un mythe, en ce sens que le but n'est pas de raconter les faits tels qu'ils se sont passés pour créer un journal, des informations. Le but est de retrouver le sens de ce qu'ils ont compris de cet événement et de nous le communiquer. quand vous parlez avec quelqu'un et que vous voulez raconter quelque chose qui vous a marqué, en général, vous vous arrangez avec le réel. Vous ne racontez pas les choses vraiment comme elles se sont passées, mais vous les racontez de telle manière que l'autre comprenne l'intensité que vous voulez exprimer ou le sens. Et du coup, peut-être que le meilleur exemple pour cela, c'est le travail de l'archéologue. Vous savez que les archéologues, le plus souvent, notamment les archéologues français, quand ils veulent fouiller un terrain, ils le quadrillent, et puis ensuite, ils explorent chaque carré. Et au fur et à mesure qu'ils enlèvent les couches et les niveaux, ils font des croquis. Quand ils font un croquis, en fait, ils ne mettent pas tout sur le croquis. Ils ne croquent que ce qui est intéressant par rapport à la couche ou par rapport à la strate. C'est-à-dire que tout ce qui est petits débris, petites brindilles, etc., qui n'apporte rien sur le plan de la connaissance historique, ils ne le mettent pas sur leur dessin. C'est la différence entre le croquis qui interprète et la photographie qui met tout et qui ne hiérarchise pas, hein, qui ne donne aucun relief à l'information. Le croquis, c'est une interprétation. Le mythe, c'est une interprétation. Ça donne du sens. Ça enlève ce qui parasite et ça resserre l'attention sur ce qui est essentiel. C'est la raison pour laquelle une bonne prédication n'est pas une prédication qui reprend tous les éléments du texte biblique sur lequel elle se fonde. Elle prend un ou deux éléments qui sont essentiels et qui constituent le cœur à transmettre. Non, il peut y avoir des bonnes prédications avec tous les éléments. C'est pas ça pour moi. Je vous ai pris ça parce qu'il y avait l'image de la personne avec les cheveux blancs, ça c'est digne de Dieu, etc. Avec, vous voyez, des éléments qui sont utilisés par Jean pour créer un peu de merveilleux. Hein, la tête et les cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Alors là, c'est vraiment du merveilleux. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Bon, ça n'existe pas, ça. Même dans les films de science-fiction, c'est rare qu'on ait des choses aussi magnifiques. L'idée, c'est, avec les éléments de la rhétorique, dire qu'il y a quelque chose qui dépasse le naturel, quelque chose de surnaturel, mais surnaturel non pas au sens de au-delà de la physique, mais au-delà de ce qui est naturel par rapport aux lois sociales. Exemple. Quelque chose de surnaturel dans la prédication de Jésus, c'est l'amour des ennemis. C'est pas naturel d'aimer ses ennemis. Ce qui est naturel, c'est d'aimer les gens qui sont aimables. L'amour des ennemis, c'est surnaturel. Et beaucoup de textes bibliques sont surnaturels, mais pas surphysiques, au sens où ils nous sortent de notre élan naturel. C'est toute la dialectique de Paul. Oui, bien sûr, vous êtes appelé à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, il y a quelque chose qui nous contrarie, Dieu nous contrarie. Laissez-vous guider par l'amour, car toute loi, etc. Voilà. Dieu contrarie notre nature, et donc il y a quelque chose de surnaturel. Et comment est-ce qu'on dit que c'est surnaturel? Comment est-ce qu'on fait comprendre à quelqu'un que c'est surnaturel? Eh bien, en racontant les choses de façon surnaturelle. Sur quels aspects ça ressemble au cantique?
Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, dans le cantique on écrit aussi comme ça.
Ah oui, c'est-à-dire que dans le cantique quantique, il y a une description de l'être aimé, qui est un peu plus végétale peut-être, quand même. Les cheveux ne sont pas encore blancs, d'accord. Mais effectivement, il y a une description poétique de l'aspect, etc. Oui, tout à fait. Oui.
C'est plus sensuel quand même.
Oui, les cheveux blancs, ça peut aller très bien, rassurez-vous. Ça peut être très sensuel, les cheveux blancs.
Non, bien. Je veux dire, dans descriptif.
Vous mettez dans des situations embarrassantes. Hein.
Les joues sont comme des grenades.
Oui, ouais, bien sûr, et le reste. Bien. Donc.
Entre en parenthèse, oui. Ça m'évoque la statue évoquée avec les pieds des reins qui s'enflamment. C'est le contraire de la statue dans la rêve de Daniel.
Avec l'argile.
Les pieds d'argile.
Oui, bien sûr.
Il doit y avoir une référence un petit peu à cette histoire.
C'est très probable parce qu'il y a beaucoup de références de Daniel dans le livre de l'Apocalypse, notamment fils d'homme. C'est une expression que l'on retrouve dans Daniel. La voix forte aussi, mais la voix forte, on la retrouve dans beaucoup de textes. Oui, effectivement, il y a les quatre animaux qu'on trouve et dans Daniel et dans le livre de l'Apocalypse, qui sont les animaux qui symbolisent les quatre évangélistes. Vous savez, l'homme, le taureau, le lion et le bœuf. Voilà. Donc, il y a la question du voir, il y a la question de l'entendre. Vous voyez, on est sur un autre registre sensoriel. Et à chaque fois, les registres sensoriels sont mis en défaut. Ils sont insuffisants. Et il faut qu'il y ait une sorte de déplacement, une transition. On passe du voir à l'écrire. Et quand on entend une parole, en fait, on la voit. Vous voyez, en permanence, comme ça, il y a des hiatus, il y a des passages. Il y a aussi, finalement, un excès. Voilà, ça surabonde. Peut-être que c'est une manière de dire que la communication avec le divin est précisément quelque chose qui excède. Comment peut-on savoir qu'une parole ou une réflexion que l'on a en nous vient de Dieu? Peut-être qu'il y a quelque chose qui relève de l'excès. Alors, ce n'est pas l'excès au sens où il faudrait que ça transgresse la loi, il faudrait que ça nous fasse trembler, etc. Je reprends encore l'expression du théologien Paul Tillich dans un autre registre. Il disait finalement, le divin, c'est ce qui nous concerne de façon ultime. Dans une discussion avec des amis, ce qui frappe et qui nous fait dire que c'est une bonne conversation, c'est que ce n'était justement pas du bavardage. C'est que ça nous a touchés et qu'on a peut-être pu se livrer. Hein, je prends une expression familière. Quand on peut se livrer avec quelqu'un, c'est qu'on a une bonne discussion avec cette personne. Il y a à la fois le climat de confiance, puis il y a aussi le fait qu'on aborde des choses qui nous concernent de façon ultime. Les préoccupations fondamentales. Il y a là peut-être une trace de quelque chose qui est divin, dans la mesure où le divin serait justement ce qui touche le fondement même de notre être. Et quand cet aspect s'exprime, finalement quand il excède le petit domaine réservé dans lequel on voudrait le confiner notre personne, peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre du divin qui s'est exprimé.
Cette translation entre et le voir, il me semble que c'est quand même quelque chose qu'on a complètement intégré pour nous. C'est quelque chose qu'on pratique couramment. Tu me parles et je te réponds oui, je vois.
Oui, ah oui,
oui, tu as raison, je vois ce que tu veux dire. Bien sûr. Le problème, alors là je réponds un peu sur l'angle de la pastorale, c'est qu'on constate que beaucoup de personnes ont dans leur discours des éléments qui sont en fait de l'ordre du symbolique sans qu'ils sachent que c'est de l'ordre du symbolique. C'est-à-dire que on a vraiment une diminution du niveau de langage. Et pourquoi est-ce que le religieux passe pour désuet pour beaucoup de personnes? C'est parce que ils ne mesurent pas le relief du discours. Ils prennent, en fait, tout est aplati et ils prennent tout argent comptant. Et je jette une pierre dans le jardin de mes collègues libéraux qui ne supportent pas le symbole des apôtres. Moi, j'en rêve pas la nuit, mais ils ne me donnent pas de bouton. Pourquoi? Parce que j'en fais pas une lecture littérale. J'en fais une lecture symbolique. Et du coup, ça fonctionne. Et ça dit des choses très intéressantes, le symbole des apôtres, si on ne le prend pas au pied de la lettre. Et oui, c'est quand même, il y a quelque chose de curieux. Les textes bibliques, on les interpréterait, et le symbole des apôtres, il faudrait le prendre tel qu'il est. Oui.
À propos du symbole des apôtres, hier soir, il y avait la rentrée de la faculté de théologie.
Oui. Et on a eu droit aux symboles apôtres bien, bien.
Le culte était présidé par un jeune pasteur, pasteur luthérien à l'église de Saint-Jean. Et naturellement, on a cité le symbole des apôtres.
Oui.
Il y a beaucoup d'autres choses qui vont. Eh bien, j'ai constaté que les libéraux qui étaient à côté de moi, car j'avais entouré quelques libéraux, maintenant leur nom, n'ont pas récité le symbole des apôtres.
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, tu étais bien entouré, notamment par l'un de tes pasteurs. Moi, j'étais derrière toi, donc tu ne m'as pas entendu, mais tu ne m'as pas vu non plus. Oui. D'ailleurs, c'est une réflexion qui a été faite à l'Assemblée du désert. À l'Assemblée du désert, le symbole des apôtres est dit. Et ostensiblement, il y avait Michel Jass, James Woody et Marc Pernaut qui ont eu les lèvres, qui n'ont pas bougé d'un poil. Et on a eu quelques pasteurs qui ont dit, c'est bien, les libéraux, continuez comme ça, tenez bon, etc. Oui, effectivement... mais ne pas dire le symbole des apôtres dans un cadre ritualiste, c'est aussi résister au ritualisme. Mais après, le refuser en bloc et considérer qu'il ne vaut rien, ça, à mon avis, c'est un autre excès, quoi. Voilà. Vu le temps qui nous reste, je vous commente les deux derniers textes. Celui de droite, Luc 24, est archi connu, c'est les disciples d'Emmaüs. Celui de gauche est un peu moins connu, je vous le lis rapidement. Ah ben non, je ne l'ai pas encore distribué. C'était pour que vous vous manifestiez un peu. Hein ? Non, c'est ça. C'est juste pour le plaisir des yeux, il ne faut pas toucher. Donc, Exode 24, c'est un texte tout à fait intéressant parce que c'est à peine croyable. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Attention, ouvrez bien les oreilles. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne, reste là, je te donnerai les tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Et donc, en face, je vous ai mis le récit des disciples d'Emmaüs, qui est, en quelque sorte, le mouvement inverse. Ils mangent et ils boivent et ils voient le Christ. Donc, intéressant parce qu'il y a là un acte de commensalité, de convivialité qui est coordonné à la vision de Dieu. Il y a une histoire de partage et une histoire de geste qui est coordonnée à Dieu, au divin. Je prends l'exemple de Luc 24, les disciples d'Emmaüs, parce que ce sont deux disciples qui ont tout un bout de chemin avec le Christ ressuscité. Ils sont disciples, donc ils ont vécu 3 ans avec lui. Pendant 4 kilomètres, ils marchent à ses côtés, ils ne le reconnaissent pas, et quand ils partagent le pain, comme il le fit quelques heures plus tôt lors du dernier repas, leurs yeux se dessinent, ils s'ouvrent, ils le reconnaissent, mais ils ne le voient plus. Et ils se disent, mais notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous ? Il y a un regard rétrospectif. Et il y a de très beaux dessins de Rembrandt là-dessus, c'est magnifique, vous les aviez au Louvre il y a encore quelques temps, tout ça, bon. Leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Vous voyez ? Il y a encore une mise en défaut de l'expérience sensorielle. Il y a à la fois l'expérience sensorielle et à la fois les mises en défaut. Et qu'est-ce qu'on a ? On a des traces. On a des traces. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous ? Il y a la trace de la mémoire. Il y a une inscription dans le corps. Tout à l'heure, je vous parlais de l'amour comme expérience non sensorielle. C'est vrai et c'est faux. Parce que l'amour, c'est aussi ce qui fait mal. C'est-à-dire qu'il y a une part de l'amour que l'on ressent parce que l'absence de l'être aimé est particulièrement douloureuse et qu'elle est extrêmement sensible. Ou alors il y a la présence de l'être aimé qui intensifie la vie et c'est extrêmement sensible aussi. Mais on ne ressent que les effets. Il y a une sorte d'après-coup. Et c'est finalement ce que j'aimerais vous laisser là comme dernière chose. Vous pouvez rajouter 2 références bibliques. Les 2 sont dans la première épître de Jean au chapitre 4. Tout d'abord le verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est quand même assez contradictoire avec Exode 24. Hein. Donc 1 Jean chapitre 4 verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu.
Quel chapitre s'il vous plaît ?
Premier épître de Jean chapitre 4 verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Et puis au verset 14. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Nous avons vu, nous attestons. Et une reconnaissance. Bon. Voilà, il y a un jeu sur le voir qui est quand même assez intéressant et qui se fait de façon dialectique, paradoxale. Exode 24, on a les élites d'Israël qui voient Dieu, premier épître de Jean, personne n'a jamais vu Dieu. Les deux ont raison. Il ne faut pas être dans une logique aristotélicienne. C'est-à-dire qu'à la fois, ils ont vu Dieu, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont été en contact avec Dieu. On pourrait dire en communion avec Dieu. Je dis en communion des saints parce qu'ils ont mangé, ils ont bu. Ils ont été en communion avec Dieu. Il y a plus de récits de repas que de prières dans la Bible. Peut-être que le repas est un lieu plus théologique que la prière. Pourquoi? Parce que la prière, elle est ambiguë, elle est problématique. La prière, elle ne favorise pas l'inattendu. La prière, c'est le cadre légal dans lequel on convoque Dieu. Alors forcément, on ne peut que s'attendre à ce que Dieu soit là. Le repas, c'est une convocation d'autres hommes. Si Dieu est là, c'est une surprise, c'est un inattendu. Et du coup, Dieu est d'autant plus présent qu'il est dans l'inattendu. Parce que sinon, il est dans les stéréotypes. Enfin, comme il est dans les stéréotypes, en fait, il n'est pas là, puisque Dieu ne peut pas être figé. Ou s'il est figé, c'est déjà plus de Dieu dont on parle. Ce qui est vrai pour Dieu est vrai pour vous. On est en train de préparer l'exposition avec de superbes photos de l'oratoire ces 200 dernières années. Bon, bah, c'est déjà plus l'oratoire. L'oratoire, c'est déjà autre chose maintenant. Pourtant, il y a une photo qui date du 10 septembre pour un mariage. Mais c'est déjà fini, cette histoire. On est déjà dans un autre registre. On a déjà beaucoup vécu et on est appelé à vivre beaucoup d'autres choses. La théologie qui jaillit de la Bible est une théologie qui évite les arrêts sur image, précisément. Ou alors, quand elle les autorise, le texte est un arrêt sur image. Le texte est une fixation. Elle les autorise pour nous donner matière à penser, nous donner matière à réfléchir, à repenser, comme le fait le mythe. Non pas pour savoir comment les choses se sont passées, mais comment nous pourrions faire en sorte qu'elles adviennent là. Le mythe, ce n'est pas une relation de l'histoire, du passé, ce n'est pas un acte de connaissance de comment c'était avant, c'est un élément pour nous aider à réfléchir à aujourd'hui et à demain. Et donc, au mois prochain. Merci.